Je vous invite à relire aujourd'hui dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 10, les 20 premiers versets. Après cela, le Seigneur choisit 72 autres disciples et les envoya deux par deux devant lui dans toutes les maisons et tous les endroits où lui-même devait se rendre. Il leur disait « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. En route, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne prenez ni bourse, ni sac, ni chaussures, ne vous arrêtez pas en chemin pour saluer quelqu'un. Quand vous entrerez dans une maison, dites d'abord « paix à cette maison ». Si un homme de paix habite là, votre souhait de paix reposera sur lui. Sinon, retirez votre souhait de paix. Demeurez dans cette maison-là, mangez et buvez ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier a droit à son salaire. Ne passez pas de cette maison dans une autre. Quand vous entrerez dans une ville et que l'on vous recevra, mangez ce que l'on vous présentera. Guérissez les malades de cette ville et dites à ses habitants, le règne de Dieu est tout proche de vous. Mais quand vous entrerez dans une ville et que l'on ne vous recevra pas, allez dans les rues et dites à tous, nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Pourtant, sachez bien ceci, le règne de Dieu est tout proche de vous. Je vous le déclare, au jour du jugement, les habitants de Sodome seront traités moins sévèrement que les habitants de cette ville-là. Quel malheur pour toi, Chorazine ! Quel malheur pour toi, Bethsaïda ! Car si les miracles qui ont été accomplis chez vous l'avaient été à Tyr et à Sidon, il y a longtemps que leurs habitants auraient pris le deuil, se seraient assis dans la cendre et auraient changé de vie. C'est pourquoi, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous. Et toi, Capharnaüm, crois-tu que tu t'élèveras jusqu'au ciel ? Tu seras abaissé jusqu'au monde des morts. Il dit encore à ses disciples, « Celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. » Les 72 envoyés revinrent pleins de joie et dirent « Seigneur, même les démons nous obéissent quand nous leur donnons des ordres en ton nom. » Jésus leur répondit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Écoutez, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous faire du mal. Mais ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous obéissent. Réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » J'aime bien ce texte parce qu'il est à classer dans cette catégorie de textes qui finissent mieux qu'ils n'ont commencé. Ce n'est pas toujours le cas. Les disciples sont envoyés en mission sous le signe d'une méfiance extrême quand même. Ça commence... On ne peut pas dire que ça commence mal, mais ça commence de manière peu engageante. « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. » Pas très engageant, mais assez réaliste, puisque les disciples doivent, on le sait bien, se débrouiller dans un monde récalcitrant, c'est-à-dire dans un monde qui est tellement habitué aux mauvaises nouvelles qu'il se méfie chaque fois qu'il en entend une bonne. À la fin du texte, c'est une autre tonalité qui accueille les disciples au retour d'une mission remplie de succès. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. La joie paraît assurée. Nos noms inscrits dans les cieux, c'est mieux que s'ils étaient gravés dans le marbre, surtout quand on sait à quoi sert le marbre. Alors, entre le début et la fin du texte, entre la méfiance extrême et une joie imprenable, il a certainement dû se passer quelque chose. Dans les premiers instants où Jésus prépare les disciples à leur mission, il y a donc cet avertissement sur la dureté du monde. Nous ne découvrons rien en le réentendant une énième fois, la dureté du monde est celle que nous connaissons parce que nous l'affrontons, nous aussi, tous les jours. Serait-ce par compensation que Jésus éloigne ses disciples de toute tentation de mondanité ? Ne dites pas bonjour ou à peine, vous voyez, la dureté aussi de la démarche, la sécheresse des relations qui sont décrites dans ce texte, en leur interdisant même les plus élémentaires salutations. Encore pas toujours, mais selon les circonstances. Quand on sait ce qu'est l'hospitalité orientale, les règles strictes, immuables même, qui fixent ce que l'on doit à son hôte de passage, ou ce qu'on doit éventuellement au voyageur qu'on est parfois appelé à secourir parce qu'il en a besoin, on ne peut que s'étonner d'une pareille brusquerie de la part de Jésus. Si le monde est d'une dureté implacable, et il l'est, est-ce que la meilleure manière de l'habiter serait de nous durcir nous-mêmes ? Pour quelle raison ? Par souci d'intégration, peut-être, pour vivre, comme on dit, à la température ambiante. Peut-être, ou pas. Nous pouvons être rassurés sur les exigences de l'hospitalité. Elles ont toujours été, elles sont encore ce qu'elles ont toujours été en Orient. Elles ne sont pas remises en cause ici. Mais chacun prendra la route en sachant ce qu'il doit faire à tout moment. Les us et coutumes n'en souffriront pas. Personne ne voyagera sans forme de politesse. Cet adieu apparent à la bienséance ou à la politesse, fait place à un bonjour qui déplace les lois de l'hospitalité en les emmenant peut-être un peu plus loin. C'est un souhait de paix qui n'impose rien à personne. Ce n'est pas un retrait, c'est une avancée. On ne s'y attendait pas en écoutant le début du texte. Un souhait de paix qui n'impose rien à personne. S'il se trouve un homme de paix, votre paix ira reposer sur lui, sinon elle reviendra sur vous. Bon, et alors ? On dirait la colombe de l'histoire de Noé, qui tend le rebord de la fenêtre de l'arche pour aller chercher une branche où se percher ou atterrir. Si elle trouve cette branche, la bonne nouvelle de la paix promise est immédiatement acquise par cette nouvelle terre qui émerge, parce que dans tous les enseignements de Jésus, il est toujours question d'une nouvelle terre qui doit émerger, qui doit advenir un jour ou l'autre. Si les eaux recouvrent encore toute la terre, malheureusement, la colombe devra patienter encore un peu, faire de nouvelles recherches, puis une nouvelle offre, sans se lasser. Ici, c'est un peu ce qui se passe avec la mission des disciples. Au sein d'un monde implacable, ils cherchent une toute petite brèche pour proposer sans se lasser une paix qui ne s'impose pas. Voilà ce qu'ils cherchent. Et quand elle est enfin acceptée, elle repose sur vous comme une main sur votre épaule, pas comme une paire de chaussures qui se secoue parce qu'on ne veut rien de vous, même pas la poussière de votre ville. Au fil des siècles, nous avons dans nos églises, par nos discours, nos spéculations, notre théologie, écrit toutes sortes de choses en affirmant des tas de choses dont nous pourrions discuter longtemps. Nous avons en particulier tenté de définir Dieu en le représentant souvent comme un improbable collage d'attributs, de caractères, de valeurs, de notions, de vertus aussi humaines, une sorte de portrait robot porté au carré ou à la perfection à partir de nous. Un Dieu qui serait nous en mieux. Mais ce qui se dit ici est sans doute plus important que tout ce qu'ont pu produire des siècles de spéculation, de loisirs créatifs théologiques avec scotch, ciseaux, papier et crépons. Le règne de Dieu dont les quatre évangiles nous parlent est une proposition, pas une déclaration, une spéculation ou un collage, une proposition de paix qui ne s'impose pas. Elle est fragile, mais elle est têtue, opiniâtre. Le Dieu qui se révèle ici et l'action qu'il entreprend pour nous sont d'une autre nature. Ce n'est pas un discours, ou pas une spéculation plus ou moins réussie, mais une proposition opiniâtre et patiente. Non seulement l'hospitalité orientale légendaire n'est pas écornée, pas trahie ici, mais la mission des disciples aboutit à autre chose. Un souhait de paix sans précédent, plus qu'un discours ou un collage d'arguments, une explication. Le règne de Dieu est surtout fait de signes concrets. Ces signes n'annoncent pas un avènement toujours reporté. Le règne se conjugue uniquement au présent de l'indicatif. Quand les signes qui le manifestent sont visibles, alors il est là. Mais il y a autre chose encore. En dehors de l'hospitalité, il y a aussi la dureté de la comparaison entre des lieux qui refusent, même poliment, l'annonce des disciples avec les villes de l'Ancien Testament, vous savez, qui ont subi un châtiment, disons, cuisant. Hein. On pense évidemment au sort de Sodome, évoqué rapidement, et de Gomorre, qui a été oublié au passage, et puis de Tyr et de Sidon, également, villes toutes promises à la destruction. On aurait pu citer Ninive aussi, qui a échappé belle. Dans l'étrange négociation d'Abraham avec Dieu au sujet de Sodome, vous vous souvenez, dans Genèse 18, Abraham s'inquiète du sort de son cousin, Lot, qui est coincé dans cette malheureuse ville en sursis. C'est à lui qu'il pense. Nous savons bien que le déroulement fatal était inévitable. Le mal était tellement incrusté que toutes les propositions du monde, même opiniâtres, même patientes, n'auraient rien changé. Alors pourquoi comparer les échecs de la mission des disciples avec un mal extrême détruit par le feu? Pourquoi pousser la comparaison jusque-là? Un mal extrême détruit par le feu faute de solution alternative. On ne trouve pas de comparaison entre les deux événements, pas vraiment. Parce qu'il y a une grande différence entre ce qui se passe chez Luc et les références à la Genèse convoquées pour l'occasion. Malgré cette comparaison avec Sodome et Gomorre, il n'y a pas de malédiction ici. Si vous relisez ces 20 versets, vous n'en trouverez pas. En Matthieu 10, le parallèle de ce texte, le même départ en mission des disciples évoque aussi très rapidement Sodome et Gomorre, mais remplace le règne de Dieu par le jour du jugement. C'est une autre expression que Matthieu utilise, sans qu'on sache exactement d'ailleurs si ce jour est lié au moment du refus, au moment où on oppose un non à la proposition que Dieu nous fait, ou à un jugement encore à venir, et peut-être beaucoup plus lointain, on ne sait pas. Même chose en Marc 6, l'évangéliste s'arrête au rituel où les disciples, confrontés à une opposition, se contentent, là encore, de secouer la poussière de leurs sandales avant de quitter la ville. Ce qui ne signifie au fond qu'une seule chose, une rupture pure et simple, sans plus. Nous n'avons plus rien à voir avec vous, arrêtons-nous là. Ça ne veut rien dire d'autre, rien de plus surtout que cela. Luc, de son côté, donne lui aussi davantage de détails, mais conforte cette absence de malédiction. Il n'y a que le constat désolé d'un refus malheureux, une perche qui n'a pas été saisie, une occasion manquée, un rendez-vous manqué. C'est un peu comme si Luc disait à sa manière que du feu destructeur sur Sodome aux occasions manquées, Dieu était devenu un peu plus patient à la longue, comme s'il s'était habitué à ce qu'on lui dise non. Le salut, ici, est un regard qui sait reconnaître l'évidence d'un règne de Dieu déjà là. C'est cela, le salut. Ça commence comme ça. Quant à la perdition, c'est une occasion manquée. La paix va devoir attendre, c'est bien dommage. Mais il y aura d'autres occasions. Autre signe que la tonalité a bien changé, la moisson évoquée dans ce texte est une image du jugement dernier. Mais ici, pas de vache maigre, pas de canicule, pas de récolte détruite, mais une récolte abondante, le contraire d'une désolation. À la fin du texte, nous n'apprenons pas ce que les disciples ont fait, sinon que les succès rencontrés sont rapportés comme des exorcismes plutôt que comme des conversions. Mais peu importe au fond, puisque l'essentiel est que la puissance du Christ nous a été transmise. Eh oui, nous avons reçu ce cadeau déjà, pleinement et entièrement. C'est par nous que le règne de Dieu se manifeste. L'explorateur Sylvain Tesson disait à propos de la patience, « J'avais appris que la patience était une vertu suprême, la plus élégante, la plus oubliée aussi, peut-être. Elle aidait à aimer le monde avant de prétendre le transformer. » Eh bien, la bonne nouvelle du règne de Dieu est double. En premier lieu, le règne est là, lié à notre terre au présent, et en second lieu, il fait de nous des annonceurs de la patience de Dieu. La paix comme conviction sera une réalité pour le monde par les signes tangibles que nous lui donnerons au fur et à mesure, puisque Dieu est patient. Amen.